Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profond encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Alors bonjour mes amis musclés du cerveau, c'est Clotilde Seille qui anime pour vous l'émission Un livre découvert sur Canal M, bien sûr.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, nous retrouvons avec grand plaisir Gérald Cousineau qui va nous parler d'un bouquin très coloré et très calorique. Je reçois mon amie France Castel qui est déjà en studio. Salut France, ça va bien?
Salut Clotilde, ça va bien.
Nous recevons aussi notre bénévole du jour qui est Gisèle Lalande aujourd'hui. Bonjour Gisèle.
Bonjour.
Et puis au milieu de tout cela, nous ferons un gros plan sur une sortie du mois de janvier. J'aborderai l'œuvre de Martin Michaud qui est l'auteur de Polar du moment au Québec, dont tout le monde parle, pas seulement au Québec, mais à l'international. Et on le reçoit la semaine prochaine. Nous évoquerons la disparition de Colin McCullough, l'auteur de Les oiseaux se cachent pour mourir. Et puis, bien sûr, on finira l'émission par quelques titres en rafale pour que vous ayez tout plein de livres à vous mettre dans les oreilles.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Comment ça va?
Fort bien, ma foi, fort bien. Et toi?
Très, très bien. J'ai été très surprise par le choix. Parce que généralement, c'est bon, tu nous arrives avec toutes sortes de choses, parfois historiques, parfois... Mais là, tu nous arrives avec un bouquin que j'ai présenté comme étant coloré et calorique.
Eh bien, les deux termes s'appliquent fort bien à ce petit roman. Enfin, petit, il n'est pas très long, c'est vrai, mais petit livre de Joe Suarez,
ouais.
Un Brésilien.
Ouais.
Le livre a paru en français en 2013 et ça s'appelle... Bonjour, j'ai un trou de mémoire.
Meurtre et autres sucreries.
Quel titre incroyable. Meurtre et autres sucreries. Alors, de quoi il est question dans ce roman policier, parce que c'est un polar. Eh ben, nous sommes au Brésil en 1938, donc juste à la veille de la Deuxième Guerre mondiale.
Mm-hmm.
Et là, vous avez un tueur en série.
Oui.
Un tueur pas ordinaire. Tout, non, il est assez particulier, il est sec et décharné, comme on le dit. Et lui, il a une particularité, il s'attaque uniquement aux femmes très grosse.
Oui.
Grosse, ça ne suffit pas, c'est très grosse.
Oui, c'est ça.
Alors, d'ailleurs, dès le début du livre, on nous dit, parlant de sa première victime, elle est grosse, belle, vorace et surtout gourmande. Et pour le présenter, lui, on va dire, l'homme est maigre, plus que maigre, émacié, sec, décharné. Alors voilà, le tableau est... Enfin, le cadre est posé. Alors, cet homme-là va se mettre à assassiner les femmes très grosses. Pourquoi on l'apprend dès le début?
Mm-hmm.
C'est qu'il a une haine de sa mère, et le mot est faible. Il déteste sa mère, qui était, semble-t-il, éléphantesque. C'est le mot qu'on emploie. Alors, il va essayer, dans chaque femme qu'il va tuer, d'assassiner sa mère, finalement. C'est comme s'il assassinait sa mère à perpétuité.
Oh là là.
Alors, ça nous donne un roman. et comment il attrape, si je peux dire, ses victimes? Eh bien, évidemment, par des pâtisseries. Et les femmes ne résistent pas longtemps. Et plus drôle, c'est que ce monsieur se balade avec son corbillard il déguise son corbillard en camionnette et, bien sûr, il y a là-dedans un présentoir de pâtisserie et, évidemment, il sait exactement où attraper ses victimes. Alors, quand une dame très corpulente passe devant le présentoir, évidemment, elle craque, elle goûte aux pâtisseries. Malheureusement, c'est sa dernière.
Parce que donc, est-ce qu'il les empoisonne ou...
En fait, il les étouffe.
Oh.
Elle mange tellement et tellement
vite. Elle se goinfre.
Et lui, bien sûr, il aide ses victimes à mourir plus vite. En fait, elle meurt étouffée, mais ça, c'est rien. C'est la mise en scène qui entoure ces meurtres qui est étonnante. Et là, je pense que René Richard Cyr peut aller se rhabiller. C'est incroyable. Je pense entre autres de ce tableau. Imaginez quatre femmes très grosses, assises nues sur une pelouse. Chacune tient devant elle un instrument de musique. Alors, ça fait comme un quatuor à cordes. Elles n'ont plus leurs yeux. Mais imaginez le tableau que la police trouve un matin dans un parc de Rio de Janeiro. Mais ça, c'est un exemple de la mise en scène dont il entoure ces assassinats.
Et il y a une firme de pompes funèbres là-dedans qui a son importance. Hein?
Oui, évidemment, parce que c'est lui-même l'assassin qui dirige l'entreprise de pompes funèbres la plus célèbre de Rio. Alors, qui pensez-vous va embaumer les dames assassinées? Ben, lui-même.
Styx, ça
donc,
s'appelle.
Donc, la boucle est bouclée. Non seulement il les tue, mais il les embaume ensuite.
J'ai à vous proposer, Gérald, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, mais pour appâter un petit peu les gens, et c'est le cas de le dire, j'avais diffusé un extrait du livre tel qu'il a été lu ici, et c'est justement l'extrait, vous nous avez cité quelques mots de cet extrait-là, si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Alors je vous propose qu'on l'écoute, vous ne raccrochez pas, on se reparle juste après, Gérald.
La grosse est la dernière cliente à quitter la confiserie Colombo après le traditionnel thé de l'après-midi. Elle emprunte la Rua Gonçalves Dias en direction de la Rua do Ouvidor. Son chemisier blanc est assombri par une quantité infinie de taches de sauce et de soupe. Des miettes anciennes s'accrochent comme des naufragés désespérés au revers de son manteau. La grosse est belle. Belle et vorace. En passant la porte de la confiserie, elle tient encore dans sa main gauche une demi-part de tarte aux fraises et dans la droite, un énorme éclair au chocolat. Ses doigts sont crispés autour de ses friandises, comme si sa vie en dépendait. Elle est grosse, belle, vorace et surtout gourmande, d'une gourmandise effrénée.
Ah ben oui, ça finissait comme ça.
Ah, la musique accompagne très bien ce passage et j'en ai l'eau à la bouche.
Ben oui, je me suis dit, ça me prenait un petit rythme brésilien aller derrière ça. Joe Suarez, est-ce que vous aviez déjà lu quelque chose de lui? Parce
pas
qu'il semblerait que c'est une grande vedette brésilienne.
Oui, j'ai appris qu'il avait écrit des polars apparemment célèbres. J'avoue mon ignorant, je ne le connaissais pas. Et bien maintenant, je vais suivre ce monsieur. Un homme qui a étudié, enfin, il se référue d'histoire. Parce qu'on n'a pas parlé de l'érudition qu'il y a dans ce roman. Juste signaler qu'il y a un passage où on le retrouve qui? Eh bien, Fernando Pessoa.
Oh!
Oui, le célèbre poète portugais d'avant-guerre.
Ouais.
Alors, en fait, c'est pour présenter un personnage, un ex-policier qui va donner un coup de pouce à un policier de Rio pour, justement, traquer notre assassin hors du commun.
OK. Oh, et au niveau de la traduction, comment c'est correct?
Oui, moi, j'ai bien aimé le style et j'ai fort goûté la lecture. D'ailleurs, on en a eu une petite idée tout à l'heure. C'est très bien lu et je dirais que la lectrice semble avoir pris un malin plaisir à mordre dans le texte de M. Suarez.
Ah oui, puis j'ai trouvé qu'elle avait un petit côté, en même temps, très, très détaché comme qui est quasiment paradoxal, mais qui fait... En tout cas, c'était vraiment parfait. Eh bien, écoutez, alors je rappelle le titre de ce livre, Meurtre et autres sucreries. Tout cela est au pluriel parce qu'il n'y en a pas qu'un. Dites donc, est-ce qu'on dévoile quelque chose si on dit la mère qui meurt au début?
On sait que c'est lui-même qui l'a assassiné.
Ah bon, c'est ça que je voulais vous faire dire,
mais je ne vous dirai pas non plus, je ne vous dirai pas cependant comment lui meurt à la fin, parce que là aussi la métaphore culinaire se poursuit. Hein.
Ah oui, en plus!
C'est absolument délectable la fin de ce livre. Enfin, comment l'assassin met fin à ses jours lui-même.
Ah, remarquez, peut-être qu'on tombe dans la grande bouffe, dans le célèbre grande bouffe, vous savez, qui était le film italien avec Piccoli et compagnie. Alors, merci beaucoup donc, Meurtre et autres sucreries.
Oui, c'est absolument délectable.
Délectable, mais c'est le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'était Gérald Cousineau qui nous le proposait. Le nom de l'auteur, c'est Jo Soares. Je vais l'épeler, si vous me le permettez. S-O-A-R-E-S. Comme ça, vous allez trouver ça très facilement et vous allez vous délecter. Et en plus, on ne prend pas un gramme en le lisant. Et pourtant, pourtant ce ne sont pas les calories qui manquent. Gérald, on se retrouve au début du mois prochain?
Oui, bien sûr.
Avec grand plaisir et passez une excellente journée.
Au revoir.
Merci.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Qu'est-ce que tu me disais, France?
Ah, mais je te disais, le monsieur, comment s'appelle, Gérald?
Gérald Cousineau.
C'est un non-voyant?
Oui, c'est un non-voyant.
Il est formidable.
Et à toutes les semaines, l'émission commence toujours par un témoignage, comme ça, de quelqu'un qui écoute. Mais en fait, on dit
oui,
qu'il lit.
Oui, absolument,
il lit
la même chose.
Livres. Alors, il y en a qui en lit seulement un, il y en a qui en lit jusqu'à 4, 5, 6.
Quelle bonne idée.
Moi, en ce moment, je connais même une personne qui a 92 ans, qui est devenue non-voyante. Je l'ai bien connue parce que je l'ai côtoyée dans une ancienne vie.
Ouais.
Et je lui ai téléphoné récemment et elle m'a dit « Mais Clotilde, si je n'avais pas les livres audio, je serais morte depuis longtemps. »
Écoute, je te comprends.
C'est
écoute,
très
ça me
touchant.
Faisait, je parlais justement à quelqu'un tout à l'heure. Je parlais de ma mère qui n'était pas une non-voyante, mais à la fin de sa vie, elle n'arrivait plus à lire et c'était le plus grand deuil qu'elle a fait.
Ah oui, hein.
Et elle me disait « Mais je ne suis même plus capable de lire.
Ah »
Et c'était très... J'ai changé de lunettes, ça ne marchait plus. Elle n'avait plus de concentration et tout ça. Et je pensais
Gérald Cousineau,
et
à tous ceux qui nous écoutent, voilà, et qui est un accès gratuit. Hein. Je ne sais pas si on le répète suffisamment, mais en passant par la BANQ, par la Grande Bibliothèque, c'est absolument gratuit dès l'instant qu'on a un papier et que ce papier témoigne qu'on est non-voyant ou qu'on a, comme ta maman en France, une difficulté perceptuelle.
Oui.
À ce moment-là, on est en mesure de pouvoir se faire venir ces livres-là, tous faits par la poste, alléluia, tant qu'il y en a encore une. Mm. Et quand ils ont terminé, ils ont une petite machine pour lire, il renvoie le disque à BANQ, c'est aussi simple
c'est
que
super.
Ça. France, puisque je m'adresse à France Castel, on est parti comme ça sur les chapeaux de roue. Oui. France, toi-même, ici, tu as lu un livre et pas n'importe lequel, le tien.
Oh mon Dieu,
j'ai là, écoute, solide et fragile.
Oui.
Mais est-ce que ça a été une bonne expérience pour toi de lire ton livre ici?
De lire? Ben oui, c'était drôle parce qu'au fait, je ne l'avais jamais lu. Je ne l'avais jamais lu. Et donc, on m'a demandé de le lire. J'ai dit, bon, et là, je me suis rendu compte, mais mon Dieu, que de choses. Et là, j'ai dit, moi, parce que c'est une forme d'entrevue, dans le fond, c'est pas vraiment un livre structuré, tout ça. J'étais comme un peu épuisée. On me demandait toujours de raconter des affaires. Alors, j'ai voulu faire l'histoire d'une petite fille qui avait soi-disant tout, qui perd tout et qui retrouve tout. Parce que c'était suite à mon passage de mon ancienne vie au niveau de ma consommation de drogue.
Ça.
Alors, solide et fragile, ça correspondait un peu à...
Et lire vous-même votre livre, c'était une expérience amusante ou...
Oui, c'est
difficile en même temps.
Je te dirais les deux.
Les deux.
Il y a quelque chose d'étrange, on dirait, que tu fais. Mais voyons donc, c'est comme presque indécent.
Mais est-ce que tu t'es déjà entendu lire ton livre?
Non, puis je ne veux pas.
Comment ça, tu ne veux pas?
Oui.
Oh, ben trop tard, c'est prévu.
Oh non!
Regardez-les. Les couches tard.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes au début de mars 1966. J'ai 22 ans. J'affiche mon plus beau sourire pour vous souhaiter la bienvenue. C'est ma première apparition à la télé, à l'émission Les couches tard.
C'est pas croyable.
J'ai été choisie par Radio-Canada pour être votre hôtesse pendant tout le mois. Miss Mars, à côté de Jacques Normand et de Roger Beaulieu. Je suis encore petite, mais je me sens enfin à ma place. Cette place que je cherche depuis ma tendre enfance, dans le cœur des autres et dans le mien. J'avais bien ri quand les recherchistes m'avaient parlé d'un concours d'hôtesse à cette émission, et encore plus quand ils m'avaient demandé si j'avais envie d'y participer. 12 finalistes seront choisies. Chacune d'elles sera hôtesse pendant un mois. À la fin de l'année, Une seule d'entre elles sera élue Miss Couche-Tard et demeurera hôtesse pendant l'année d'Expo 1967. J'avais ri, mais j'ai tenté ma chance quand même. Je m'ennuyais. J'étais prête à tout pour vivre autre chose. Prête à tout pour vivre, enfin.
Ah, oh, c'est drôle ce que tu as choisi.
Mais c'est pas si mal.
Non, mais c'est
même très beau.
Ah oui, non, mais c'est... Hein?
Gisèle Lalande, bénévole ici, oui. C'est très agréable.
C'est simple, c'est ce que j'aime beaucoup, d'énorme simplicité.
Parce qu'on a un recul.
Alors, je voudrais préciser aux gens qui nous écoutent qu'à l'époque où tu as enregistré ça, France Castel, Solide et Fragile, on était encore sur des bobines. Alors, le son est peut-être moins bon que...
Un peu plus étouffé.
Voilà, oui, c'est ça. Oui. Mais quand même, c'est très, très écoutable.
Et c'est une vie excitante.
Moi, j'ai jamais su... J'ai jamais su si c'était un conte de fées ou une histoire d'horreur. C'était un espèce de mélange de tout ça, la vie de France Castel.
T'as bien raison. Ça, c'est difficile à cerner, là. Et c'est tant mieux.
Oui. France, je t'ai demandé... Bon, d'abord, pardon pour le tutoiement, mes amis, mais écoutez, on se connaît depuis longtemps.
Ça n'a pas de bon sens. On ne peut absolument pas se dire vous. J'ai l'impression de parler à je ne sais plus qui.
Ben, non, vraiment. Oh, tu peux me dire à ta petite fille, mais personne ne va me croire.
Oui, c'est ça. Non, c'est vrai. On se connaît depuis très longtemps.
France, je t'ai demandé, comme à tous les invités qui viennent ici, de venir avec un ou plusieurs livres dont tu as envie de nous parler. Et rapidement, tu m'as cité Francine Ruel. Ma mère est un flamant rose. D'ailleurs, j'en reviens à la mère un tantôt. Hein, c'est comme un sujet.
Oui.
Il y avait la mère dans le livre de Jo Soares,
Ça hante
Meurtre et autres sucreries.
Beaucoup d'écrivains, la mère.
Et alors, pourquoi ce livre, Ma mère est un flamant rose de Francine Ruel?
Écoute,
qui t'a touché?
Qu'est-ce qui m'a touché, c'est d'abord le récit et la façon qu'on suit cette petite Franchou.
Ouais. Franchon,
et avec la description de sa mère et l'époque qui correspond exactement à ce que à l'époque où moi j'étais dans le sens en 1944, c'est vraiment on suit ça et les petits tableaux où elle essaie de se définir à travers son histoire. Alors c'est une période de ma vie où j'ai lu beaucoup d'ouvrages et de lectures sur les mères. Uh-huh. Et celle de Robert Lalonde, plein de lectures là-dessus.
Oui, c'est le cœur qui meurt en dernier, que tu as beaucoup aimé aussi.
Ça m'a beaucoup... J'aime beaucoup maintenant cette façon qu'ont les auteurs de décrire leur rapport avec les mères plus d'une moderne. Oui. Je trouve que c'était un manque. Oui. On avait toujours des mères trop idéalisées, trop parfaites.
La mère dans les ploufs.
Ou les grands sacrifices. Oui. Et puis moi, en tant que mère pas kosher, j'avais besoin de quelque part de d'autres sortes de... Et je pense que ça correspond bien à un
Mais
manque.
Surtout que sa mère, c'est quasiment une des premières féministes. Enfin, elle a
absolument.
En plus, elle élève quoi, 5 ou 6 filles?
Cinq filles seules, parce qu'à un moment donné, le père disparaît et Franchon, évidemment, reste un peu comme moi j'ai fait, comme plusieurs de notre époque. On reste plus on idéalise notre père puisqu'il est parti, alors une sorte de Willy Loman quelque part, il part. Et elle, elle va aller au couvent et tout ça. Ouais. Et cette mère forte, moi j'ai beaucoup aimé cette mère.
Qui a quelque chose de toi un petit peu.
Cette mado, je pourrais la jouer en tout cas.
Une fumeuse.
Je fume plus.
Non, mais à l'époque, et puis donc avec en plus une voix de fumeuse.
Avec une voix de fumeuse, avec un chien, avec mes petites filles, on va se débrouiller. Avec un petit amant secret, avec non, on va faire ça. Et quelque part, quelque chose de ma mère.
Ma mère
qui était dans une situation plus différente, puisque ma mère, elle n'avait pas besoin d'aller travailler puis tout ça, là, mais elle aurait donc voulu. Ma mère était institutrice, elle voulait élever des enfants. Alors, ça m'a touchée. C'est une période de ma vie où j'aime beaucoup le recul et la description et les livres sur les mères, les autres sortes de mères.
J'ai un petit extrait aussi à vous faire entendre, tel que ça a été lu.
Oui, ça m'intéresse.
Ici, donc, un extrait de « Ma mère est un flamant rose » de Francine Ruel. Oui.
Je suis née un 14 avril, aux Aurores. Cette date fut mémorable bien des années avant ma naissance. Au cours de la nuit du 14 au 15 avril, un paquebot géant, le Titanic, a emporté avec lui des milliers de personnes dans l'immensité des eaux glacées. Il eût été facile de comparer ma naissance à un naufrage. Un jour, quelqu'un m'a fait penser qu'en étant né un 14 avril, j'avais tout probablement été conçu un 14 juillet. Je veux croire qu'au moment de ma conception, il y a eu entre mon père et ma mère un gigantesque feu d'artifice. Grâce à ce 14 juillet explosif et à ce 14 avril titanesque, je suis faite de feu et d'eau. Je dois me taire en classe et dans les corridors. Je dois me taire en classe dans les corridors et au réfectoire. Je dois me taire en classe dans les corridors, au réfectoire et au dortoir. Je dois me taire en classe dans les corridors, au réfectoire, au dortoir et à la chapelle. Franchon n'en finissait plus de copier ses phrases. Assise devant son pupitre, vêtue de son costume de pensionnaire, une robe noire à manches longues, munie d'un petit revers blanc du même tissu que le collet au bout pointu, elle s'appliquait, penchée sur sa copie. Ses fines nattes glissaient sur son cahier. Il y avait de la rage dans son ventre, plein de rage. Elle faisait bon ménage avec la faim qui la taraudait. Franchon étreignait sa plume de ses doigts bleuis par la colère et par l'encre. Elle noircissait des pages et des pages, tandis que les autres pensionnaires s'amusaient en récréation, à l'extérieur par beau temps ou dans une salle de lecture les jours de pluie. Dans sa tête, un refrain qu'elle répétait en boucle. « Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. »
Évidemment, là, on rencontre plus Franchon,
oui,
qui plus
ça.
Tard va nous présenter sa mère
et
qu'elle décrit avec plusieurs petits tableaux. Des fois, c'est une souris, des fois, c'est un flamant rose, des fois...
Oui, parce que pourquoi le titre?
Eh bien oui, le titre, parce que sa mère se tenait toujours debout, avec une patte un peu...
Repliée, c'est ça.
Et puis, elle était toujours active, puis elle avait des petites chevilles, comme ça, on peut la voir très bien. Et c'est l'image. C'est l'image qu'elle a de sa mère. Oui.
France Castel, tu aurais pu nous amener plein de livres parce que t'en avais. Il y en a un qui t'est revenu juste là avant d'entrer en studio. Oui. Tu m'as dit et si mourir s'apprivoisait, du docteur Serge Danneau. On n'a pas énormément de temps, mais vas-y, prends-en un petit
peu.
Il faut que je vous dise,
parce que là, moi, tu sais, dépendamment, là, j'ai 70 ans, on se met dans des lectures différentes. Et puis là, je lis beaucoup de livres sur les fins de vie. La mort, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a pendant, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Des récits de personnes en fin de vie. Et ce docteur Danneau, qui justement fait de l'accompagnement
aux soins palliatifs,
à Notre-Dame, est un grand médecin et un grand auteur. Il écrit très, très bien. Tu sais, ça pourrait être juste une référence médicale, mais pas du tout. C'est une histoire. Il nous fait des histoires avec plusieurs sortes de fins, de récits de fins, de
vie. Ce sont des témoignages.
Des témoignages qu'il lui écrit carrément.
Okay.
C'est pas des... c'est lui qui enveloppe ça. Il fait des petites scènes avec ces témoignages-là, de sortes de fins de vie qu'il a vécues. Puis il y en a de toutes les sortes. De ceux qui sont dans la négation, ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent trop. Enfin, un beau livre, on peut lire ça.
Et c'est pas le larmoyant, là, c'est plein de vie,
écoute,
finalement.
Plein de vie, exactement. Écoute, moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça enlève ce côté la mort.
Est-ce que ça te fait peur, toi, France Castel, la mort?
Ça me fait relativement peur, parce que c'est de l'inconnu.
Oui.
On a beau dire qu'il y a quelque chose...
C'est surtout la nuit que ça fait peur.
Ah oui!
Le jour, ça...
Exactement.
C'est plus facile.
C'est plus facile, oui, c'est ça. Non, il y a comme un silence intérieur qui par rapport à la mort, est un peu turbulent. Mm-hmm. Mais bon, j'apprivoise ça par différentes sortes de lectures et aussi de fin de vie, de personnes près de moi.
J'ai une amie qui est morte à Notre-Dame aux soins palliatifs dans le service du docteur Danneau il y a 2 mois.
C'est-tu un beau service, hein, de là-bas? D'accord.
Mesdames, je vous remercie beaucoup pour le témoignage. Merci, France.
Merci, Clotilde.
Tu vois, on aurait pu passer
une heure, deux heures.
Écoute, je reviendrai. Écoute, ce serait très gentil de ta part. En plus, t'as des lectures qui sont révigorantes et qui sont... Alors, merci beaucoup de nous avoir présenté ce livre de Francine Ruelle et de Monsieur Danneau. Et si mourir s'apprivoisait, pour le Francine Ruelle, c'est « Ma mère est un flamant rose ». À bientôt, France. France Castel, merci.
Chapitre 3.
Gros plan sur une sortie récente. Tu peux faire ta sortie si tu veux, France, parce que je sais que tu es quelqu'un qui est toujours bien bien occupé, alors il n'y a aucun problème.
T'as un petit
10 minutes, yes. Ça, c'est à un moment donné où je fais un gros plan sur un livre qui est sorti, puis là, j'avais envie de faire autre chose que du roman, que de la bio, tout ça. Et je suis tombée sur ce livre-là qui s'appelle « L'Indien malcommode ». Un portrait inattendu des autochtones d'Amérique du Nord. C'est à la fois un ouvrage d'histoire et une subversion de l'histoire officielle. C'est le résultat d'une réflexion personnelle et critique qu'un monsieur qui s'appelle Thomas King a mené depuis un demi-siècle sur ce que cela signifie d'être indien aujourd'hui en Amérique du Nord. On a le temps, un petit extrait. On écoute.
En octobre 1492, Christophe Colomb a touché terre, quelque part dans les Caraïbes, une région du globe inconnue des Européens. Et c'est pour ça qu'on raconte depuis ce temps qu'il a découvert l'Amérique. Si vous êtes le genre de personne que l'humour incommode, vous allez dire que Colomb n'a rien découvert du tout, qu'il s'est simplement échoué sur une terre inattendue, habitée par une myriade de nations. Mais voyons les choses en face, l'histoire de Colomb est bien meilleure. Trois petits navires délabrés zigzaguant sur l'Atlantique, le brave capitaine conservant deux journaux de bord pour dissimuler à son équipage à quel point l'expédition avait dérivé loin du monde connu. Puis le grand homme lui-même marchant jusqu'au rivage, trempé de sueur, avec une lettre d'introduction logée dans sa tunique pour l'empereur des Indes, de la part du roi et de la reine d'Espagne. On ne bouge plus, clique. Et n'oublions pas le temps ensoleillé, les plages sablonneuses, les lagons aux eaux azurées et les sympathiques indigènes. Nous sommes nombreux à penser que l'histoire, c'est le passé. Faux. L'histoire, ce sont les histoires que nous racontons sur le passé. Et c'est tout.
L'Indien malcommode ne va pas vous plaire, a dit un journaliste. Il va vous passionner si la justice vous passionne. Il va vous choquer si vous n'aviez encore rien vu. Il va vous attrister, c'est sûr. Mais le pire, c'est qu'il va aussi vous faire rire. J'ai aussi une autre critique ici de Chantal Legui dans La Presse qui avait écrit « Lorsque le livre est sorti sur papier, vous ne verrez plus l'histoire de l'Amérique de la même façon. Après avoir lu Thomas King, le lecteur hésite entre la colère et le rire en lisant ce malcommode qui remet quelques mythes et supposés vérité en contexte. » Et puis aussi à Radio-Canada, à un moment donné, on avait dit « c'est tellement divertissant, un ton ironique, mordant, c'est très bien documenté, on apprend énormément, il déboulonne plusieurs mythes. » Je vous redonne le titre de ce livre récemment paru en audio adapté au SQLA. Gros plan, L'Indien malcommode, un portrait inattendu des autochtones d'Amérique du Nord. Ça a été traduit par Daniel Le Poliquin et ça a été écrit par Thomas King. Restez là, dans quelques secondes, j'accueille, dans quelques minutes, j'accueille Gisèle Lalande, bénévole.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seille et ses invités. Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Et j'ai toujours pas corrigé ma bévue d'en faire deux, le bénévole ou la bénévole.
Eh oui, parce qu'il y a plus de la bénévole que de le bénévole.
C'est vrai. Bonjour Gisèle.
Bonjour.
Gisèle Lalande, c'est une première pour vous.
Oui.
Vous êtes monitrice ici.
Oui, exactement.
Depuis longtemps déjà vous...
Non, moi je suis une petite nouvelle, ça fait seulement 2 ans que je suis ici, 2 ans et des poussières.
Ah ben quand même.
Comparé à, il y a des femmes qui sont ici... Je dis des femmes parce que comme partout ailleurs dans ce genre d'organisme, comme par hasard, il y a plus de femmes que d'hommes.
C'est vrai qu'il y a plus de femmes.
Mais qui sont ici depuis 20 ans.
Et puis Gisèle, j'ai lancé un appel à tous assez récemment. Vous avez eu la gentillesse de me répondre en disant « Oui, moi j'aimerais beaucoup venir vous parler d'un livre. » Donc vous n'avez pas lu, mais vous étiez là comme monitrice. De quel livre s'agit-il?
Il s'agit de La fille de l'Est, d'une écrivaine espagnole, ou on devrait peut-être dire catalane, parce qu'elle est de Barcelone.
Ou Son, avec le feu dans ces cas-là.
C'est ça, le Clara Usson, je ne sais pas exactement comment...
Ça s'écrit U-S-O-N, je le précise toujours.
C'est ça, puis il y a un accent quelque part, je ne sais plus trop.
Mais si vous faites U-S-O-N, vous allez tomber dessus.
Alors, c'est un livre que j'ai découvert, parce que nous, évidemment, quand on est monitrice,
on change des fois, on fait pas le livre du début à la fin. Le lecteur, il faut que ce soit toujours la même voix, mais le moniteur, la monitrice, celle qui est de l'autre côté de la vitre et qui aide un peu, qui supervise, qui s'assure que tout se passe bien, on fait des bouts de livre et des fois, on les fait pas au complet.
C'est frustrant.
Des fois, non, des fois on est très, très content de pas les faire au complet. Je dois l'admettre. Des fois, on est très frustré. Et celui-là, c'était une actrice que je connaissais même pas, qui changeait de jour et je me suis retrouvée à faire la monitrice. Et on a commencé à lire le livre. Et moi, pour moi, ça a été comme une espèce de beau choc, une espèce de retour en arrière. C'est un livre qui porte sur la guerre en ex-Yougoslavie, qui est immensément bien fait. Moi, j'ai été journaliste pendant 30 ans.
Parce que,
et j'ai fait des dizaines et des dizaines d'entrevues sur la guerre en ex-Yougoslavie. Je suis allée à Sarajevo deux fois et tout. Et là, ça me replongeait dans un monde, dans le monde de cette guerre, mais fait de façon vraiment unique. C'est que c'est une alternance de chapitres descriptifs de l'histoire, mais écrits avec un ton, une espèce de sarcasme. C'est pas de l'histoire technique, ennuyante, c'est vraiment bien écrit. Et l'histoire d'Anna Mladic. Anna Mladic était la fille de Radko Mladic, qu'on surnommait le boucher des Balkans. Il est jugé présentement au TPI pour le massacre de Srebrenica, entre autres. Et sa fille Anna l'adorait. Elle avait évidemment l'image de son père, que le père qui aime sa fille et qui l'adore et tout.
Oui.
Et c'est le cheminement de sa vie où... Bon, elle s'est suicidée. Ça, c'est un fait historique. Elle s'est suicidée pendant la guerre, peu de temps avant d'ailleurs le massacre de Srebrenica. Certains ont dit qu'il pouvait avoir un lien. Elle a utilisé le fusil que son père chérissait, qu'il gardait, parce que c'est la tradition dans les Balkans, pour tirer en l'air le jour où ses petits-enfants naîtraient. C'est cette arme-là qu'elle a utilisée pour se suicider.
Et qu'on a retrouvée à côté d'elle.
Oui, c'est tout des faits historiques. Mais autour de ça, pourquoi Anna Mladic s'est suicidée? Il y a eu différentes versions, dont certaines versions sérieuses, disant qu'elle avait été peu de temps à Moscou avant et qu'à ce moment-là, elle avait découvert que son père n'était pas le gentil papa qu'elle croyait, mais le boucher des Balkans, finalement. Et que c'est ça, la raison de son suicide. Ça, c'est la thèse que retient Clara Housson. Mais c'est qu'à travers tout ça, c'est l'histoire de cette période-là, mais vue en roman de l'intérieur. C'est une jeune, Anna Mladic, elle a 20 ans dans le roman. Et ce qui s'est vécu. Donc, pour aborder un dossier très lourd, très complexe, plutôt qu'aller lire un essai, je pense qu'en lisant ce livre, les gens vont en apprendre 10 fois plus et d'une manière qui est beaucoup plus facile à aborder. C'est pris de l'intérieur et c'est vraiment bien fait. Le Nouvel Observateur en a parlé, Policies, qui est une grande revue, en ont parlé. Alors pour moi, ça a été comme une découverte quand j'ai lu ça. Ça m'a replongé. J'allais chercher le livre parce que comme j'étais monitrice, moi, je ne l'aurais pas fait au complet. J'allais chercher le livre et je l'ai lu. Et c'est pour moi, c'est surtout quand c'est un auteur qu'on ne connaît pas du tout. C'est comme, on a l'impression d'être un archéologue qui vient de découvrir...
Une pierre riche, là.
Exactement, un trésor. Parce que, bon, il va y avoir d'autres gens qui connaissaient cet auteur-là, mais pour moi, c'était vraiment comme une totale découverte.
Est-ce que vous en avez lu d'autres? Est-ce qu'elle en a écrit d'autres, cette Madame Clara
Husson? J'ai été vérifiée, elle en a écrit un autre, mais je n'ai pas encore vérifié s'il était traduit et s'il était disponible.
OK.
Celui-là... La traduction me semble bonne. Je ne l'ai pas lu en espagnol.
Je vous propose d'en entendre un extrait.
Elle est une bonne lectrice, une jeune femme sympathique. Oui.
Alors, c'est un extrait de La fille de l'Est de Clara Husson.
À présent, la caméra fait un gros plan sur la fille qui se tient de profil et rappelle son père qu'elle regarde avec tendresse ou admiration quand elle sourit. Soudain, la jeune femme tourne la tête et offre son visage joyeux à la caméra. L'image suivante est celle d'un faire-part de décès. Le nom de la défunte est écrit en cyrillique. On voit une photo sépia, au contour flou, bordée de noir. Ensuite, l'entrée d'un cimetière, un corbillard qui s'approche, deux employés des pompes funèbres portant un cercueil. À droite, je reconnais le père et la mère de la séquence joviale précédente, le visage grave à présent, portant rigoureusement le deuil, debout contre un mur en pierre. Sur l'image suivante, la mère se penche à la tête du cercueil pour redresser une photo encadrée qui repose parmi les couronnes et l'embrasse avec onction. À côté d'elle, le père, ému, très sérieux, semble sur le point de l'imiter, mais renonce à le faire. La jeune femme sur la photo est probablement leur fille, celle qui, quelques instants plus tôt seulement, riait de bon cœur.
Je sais pas pourquoi.
C'est une de mes musiques préférées. C'est le premier.
C'est vrai.
C'est la première
violoncelle seule de
Bach. J'adore.
Bach.
Je peux écouter ça en boucle en permanence.
Donc, ben voyez-vous, et quand j'ai entendu cette jeune femme qui était la lectrice lire ça, et je me suis dit, tu peux pas mettre quoi là, n'importe quoi, ou tu mets rien. Puis tout d'un coup, j'ai entendu Bach. J'ai dit, c'est Bach. Alors, et ce qui est formidable avec cette lecture, ça je voudrais le dire, c'est qu'on voit tellement les photos de cette jeune femme qui regarde à la caméra complètement souriante et dont on sait ensuite qu'elle va mourir. Enfin, c'est... Ouais. Vous me disiez une anecdote à raconter par rapport
Oui, deux choses que j'aimerais rajouter parce que ça passe très vite. D'abord, le fait que quand Mladic a été arrêté en 2001 pour être jugé au TPI, il a demandé une chose, et c'était longtemps après la mort, il a demandé la faveur de pouvoir aller sur la tombe de sa fille, ce qui lui a été accordé. Alors, c'est vous dire ce rapport un peu bizarre pour un homme qui a assassiné et tout, mais il voulait aller sur la tombe de sa fille. Non, l'autre chose que je voulais dire, quand j'avais lu, enfin, entendu et après ça lu un peu par moi-même ce livre, bon, moi, j'avais l'impression que c'était, ça rendait parfaitement, mais j'avais des doutes, je peux me tromper. Alors, j'ai demandé à la fille d'une amie qui est née à Belgrade, qui est serbe, française, québécoise, des histoires compliquées, je vous passe les détails, mais elle est née à Belgrade et elle a vécu à Belgrade jusqu'un an après le début de la guerre et elle avait quelques années de moins, mais à peu près l'âge d'Anna Mladic. Et je lui ai dit, pourrais-tu lire le livre pour me dire si toi aussi tu as l'impression que ça te replonge puis que c'est vrai? Moi, je ne vivais pas à Belgrade à l'époque, évidemment. Et elle a lu le livre et elle a dit, je n'étais pas capable de le laisser quart de seconde. Et elle était absolument fascinée de voir que c'était une Espagnole qui avait écrit ça.
Ah oui, hein?
Oui, ouais. Elle n'en revenait pas. Elle revivait des moments de sa jeunesse.
D'ailleurs, cette femme-là, espagnole, honnêtement, je suis une très mauvaise fille et généralement, je fais toujours une recherche sur les auteurs. On se demande, quel est le lien entre cette femme qui est de Barcelone?
Oui, c'est une réflexion aussi sur les nationalismes.
Aussi.
C'est une réflexion... Bon,
ça s'applique à tout.
Certaines phrases, on dirait que ça peut être Poutine qui les prononce maintenant. Mais on peut donner...
Et puis en Espagne, ils ont...
Là, on donne l'impression que c'est un livre politique parce que c'est mes vieux travers qui remontent à la surface et je parle toujours
Moi, je suis curieuse,
plus
Gisèle.
Politique.
Oui. Mais excusez-moi de vous interrompre, mais vous étiez journaliste pour qui? Pour
Radio-Canada, la radio de Radio-Canada.
Oh, ben alors, on s'est connus. Enfin, bon, bref. OK.
Mais pas la deuxième chaîne, la première chaîne.
Oui, d'accord, OK.
C'est ça, pas OFM, comme on disait dans le temps.
Ah, bah oui, alors que moi, j'étais...
OFM dans les étages.
Moi, j'étais au culturel.
C'est ça, dans les étages, dans la tour. Nous, on était en bas.
Ah, c'est ça, d'accord, oui, du côté journal. Gisèle, c'est un plaisir. J'espère que vous allez en trouver d'autres.
Ça dépend des livres, des fois, on n'est pas chanceux.
Oh oui, mais...
Enfin, il y a tous les goûts,
Trouvez-moi un... Regardez, on peut même faire un deal. Même si on ne l'a pas lu, du moment qu'il est disponible, SQLA, vous venez à l'émission quand vous voulez.
Je le lis avant, par exemple. Hein?
Bah non, bah si. Bien évidemment. J'ai accueilli avec beaucoup de plaisir et je suis sûre, vous aussi, qu'il l'avez entendu. Vraiment, je suis entourée de deux femmes merveilleuses, France Castel et Gisèle Lalande. C'était pur bonheur de vous avoir. Là, je vais me retrouver toute seule.
Et moi, c'était pur bonheur de me retrouver face à un micro de radio parce que ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé.
C'était vraiment agréable d'entendre.
Oui,
de
du coup, France, elle est restée.
Écoute, alors, moi, je suis restée. Je pense que
je la maison. On sent la maison.
On sent la maison. Les livres, hein, c'est...
Ben, c'est ça.
Vous me faites plaisir en me disant que vous vous sentiez à la maison parce que c'est exactement comme ça que je veux ça. Je veux que ce soit familial. Voyez-vous, on entend même les bruits de pages, les machins.
C'est toi qui peux faire ça, Clotilde. T'es capable de faire ça, c'est génial.
Merci beaucoup, mesdames.
Merci, ça fait un grand plaisir.
Merci.
Chapitre 5. De bouche à oreille,
Une page de littérature.
C'est un petit peu la bande-annonce de cette émission-là et je suis très heureuse de vous annoncer que, si tout va bien, je croise toujours les doigts parce qu'on ne sait jamais, mais c'est confirmé, la semaine prochaine, je reçois Martin Michaud. Martin Michaud, qui est-il? Eh bien, il est en ce moment l'auteur de polar le plus couru et le plus primé au Québec. C'est donc pas rien. Je suis très, très heureuse et très fière qu'il ait accepté de venir faire l'émission à livre découvert. Monsieur Michaud, Martin, qui est né en 1970, est avocat au départ, musicien, scénariste. Il est aussi écrivain. Il a été qualifié, écoutez bien ça, par la critique de maître du thriller québécois et il voit son travail comparé à celui des auteurs internationaux comme Michael Connelly, Joe Nesbo, Fred Vargas, la française, Harlan Coben, Ian Rankin ou encore Henning Mankell. Si on commence par ce qu'il vient de faire le plus récemment, en septembre 2014, il a publié un roman hors série intitulé « Sacha », H.A. Sacha, donc, est le prénom d'un petit garçon. C'est un livre que je suis en train de dévorer, hein, mais c'est vraiment une petite plaquette. Et on est à la fois dans le polar et dans la science-fiction. C'est un livre qui sera disponible d'ici quelques semaines. Il est en traitement en ce moment au SQLA. Peut-être même que c'est seulement une question de jours. Il faut aussi parler, lorsqu'on parle de Martin Michaud, de ce premier roman hors série qu'il a fait paraître au moins en 2013. Et c'était Louise Boulanger, une abonnée non-voyante, qui était venue nous en parler. Et d'ailleurs, elle va revenir la semaine prochaine pour nous parler d'un autre livre de Martin Michaud. Mais là, elle nous avait parlé du livre qui s'appelle « Sous la surface », qui a remporté en mai 2014 le prix Ténébris, remis au meilleur roman de littérature policière de langue française distribué au Québec. Et il a terminé au deuxième rang dans la catégorie « Meilleur vendeur en littérature policière québécoise ». Et puis, on précisait aussi qu'en septembre 2013, Martin a remporté le prix, Martin Michaud, il a remporté le prix Saint-Pacôme du meilleur roman policier pour « Je me souviens ». Ainsi, il est devenu le premier écrivain à remporter cette distinction à deux reprises. Il avait déclaré à Marie-Christine Blais dans une entrevue que dans ses romans, il part toujours d'une préoccupation personnelle ou de quelque chose qui le fascine depuis longtemps, comme par exemple dans le livre « Il ne faut pas parler dans l'ascenseur » que nous avons au SQLA. Il parlait au départ, sa préoccupation personnelle, c'était le coma. Dans un autre livre que nous avons aussi, « La chorale du diable », qu'il a sorti en 2011, ça s'était inspiré du film d'Amiens, « La malédiction », un film qui l'avait terrifié quand il était enfant. Et le livre « Je me souviens », sorti en 2012, également disponible au SQLA, eh bien, ça fait référence. Au départ, sa référence, c'est l'OFLQ, la crise d'octobre et la mort de Kennedy. Son père, dit-il, ramenait souvent à la maison des revues spécialisées sur l'assassinat de Kennedy et ça l'a toujours fasciné. Je vous propose d'écouter un extrait du livre « Je me souviens ». Nous sommes dans un avion, nous sommes avec la femme d'un personnage politique très important. Évidemment, la femme est importante pour lui, elle est essentielle, mais elle est au fond de l'avion. On ne fait pas encore connaissance à ce moment-là avec le personnage central.
Je ne crois pas en Dieu, mais je prie. 15 000 pieds au-dessus du Massachusetts. Je ne crois pas en Dieu. Évidemment, je ne pourrais l'avouer en public, ce serait un suicide politique, mais les rares personnes qui me connaissent le savent. Pourtant, lorsque je ressens de la peur ou que je fais face à une épreuve, je me surprends plus souvent que ma raison ne voudrait le reconnaître à entretenir un monologue intérieur avec lui. Déjà, quand j'étais plus jeune, je lui adressais mes suppliques les plus désespérées. Faites que papa rentre à la maison. Faites qu'Heather Davis cesse de m'embêter à l'école. Et surtout, faites que Chase Moore me remarque. Tout ça, c'est sans compter que, dès que les circonstances m'y obligent, je prononce la formule consacrée, les trois petits mots qui cimentent la fibre patriotique et l'identité de notre grand pays. God bless America. Ce soir-là, mes lèvres remuaient en silence tandis que, dans ma tête, je psalmodiais à Dieu de fiévreuses incantations. Faites que l'on s'en sorte vivant, je vous en prie. Malmené par de violentes secousses, l'appareil fonçait à travers la cellule orageuse. La pluie claquait contre mon hublot et des éclairs lézardaient un ciel de cendres. Incapable de travailler, j'ai rabattu l'écran de mon ordinateur portable et enfoncé les doigts dans les appuie-bras de mon fauteuil. Puis, sans même hésiter, je me suis remise à prier avec ferveur ce Dieu auquel je ne crois pas.
Et on laisse cet avion s'éloigner alors qu'on va laisser venir à nous Martin Michaud, l'auteur de ce livre « Je me souviens ». Monsieur Michaud qui avait aussi été invité d'honneur du Salon du Livre à Montréal en 2011. Il a été découvert de l'année du journal La Presse en 2010. Il a été l'auteur vedette du mois de février 2010 au Club de lecture, la recrue du mois d'avril 2010 du site larecrue.net, etc. Voyez-vous. Et en parallèle à ses activités de romancier, il a scénarisé, figurez-vous, un projet de série originale pour la télé, un film tiré de son roman La chorale du diable pour le cinéma québécois et un film tiré de Sous la surface pour le cinéma américain. Il a longtemps pratiqué le métier d'avocat d'affaires, mais alors là, il se consacre complètement à l'écriture. Il viendra nous parler de cela lui-même, tout seul, comme un grand, la semaine prochaine. J'en suis bien fier. Martin Michaud à l'émission.
Des nouvelles et des livres.
Oui, c'est une nouvelle qui date quoi d'une semaine ou deux maintenant. Oui, deux semaines. Le décès de Colin McCullough, l'auteur du best-seller Les oiseaux se cachent pour mourir, l'écrivaine australienne dont le roman Les oiseaux se cachent pour mourir s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, est morte jeudi à l'âge de 77 ans. Jeudi donc il y a deux semaines de cela et c'est sa maison d'édition qui nous l'a annoncé. Elle est décédée dans un hôpital de Norfolk Island, une île éloignée au large de la côte est de l'Australie. La directrice de la maison d'édition HarperCollins Australia a précisé que Madame Callow avait fait ces dernières années, avait fait face ces dernières années à des ennuis de santé et à des problèmes de vue. Donc, elle était obligée de dicter ses dernières œuvres. Un esprit vif et direct, nous attendions avec impatience ses visites depuis Norfolk Island et l'arrivée de chaque manuscrit en version papier qui était envoyé dans des boîtes Bordeaux faites sur mesure et libellées de son nom, s'est-elle le souvenu. Madame Callow, qui a signé 25 romans, son premier Tim, qui a inspiré en 1979 un film avec Mel Gibson, et puis son dernier, Bittersweet, qui est paru en 2013. Les oiseaux se cachent pour mourir, dont l'intrigue se déroule dans le désert australien, a été adapté en une série télévisuelle de qualité avec Richard Chamberlain en prêtre. Peut-être vous en souvenez-vous. Et puis Madame McCullough est aussi l'auteur de la série Les Maîtres de Rome, 7 romans sur la Rome antique. Alors les hommages ont été évidemment nombreux pour l'une des auteurs australiens les plus connus au monde qui laisse derrière elle son mari, un monsieur qui s'appelle Rick Robinson. Alors je me suis dit, mais alors qu'est-ce que nous avons? Bien justement, Les Maîtres de Rome dont je viens de vous parler est disponible chez nous, au SQLA, via BANQ, mais nous en avons d'autres. Donc ça, c'est une série, hein, il y a 7 livres différents de cette série Les Maîtres de Rome. Il y a également disponible La Maison de l'Ange, qui est un livre aussi qui a été signé par Madame Colin McCullough. L'espoir est une terre lointaine, c'en est un autre roman. Bien évidemment, il y a Les oiseaux se cachent pour mourir. Ça a été enregistré en 2009, donc j'imagine que la qualité sonore doit être relativement correcte. Et puis, il y a aussi Le Temps de l'amour qui a également été signé par cette auteure australienne qui, je vous le rappelle, à la fin de sa vie, ayant perdu la vue, eh bien, dictait ses livres qui étaient donc pris en note. Alors voilà, disparition de Madame McCullough, c'est peut-être l'occasion de se replonger dans cet univers.
Quelques nouveautés en rafale.
Alors j'ai fait le tour et j'en ai trouvé pour vous quelques livres, ma foi, qui me semblaient fort intéressants, à commencer par celui-ci. J'aurais voulu vous en parler la semaine dernière, mais j'ai manqué de temps. Alors là, je ne veux pas rater mon coup, je vais donc commencer par ça. Ça s'intitule « La faiseuse d'anges » de Camilla Läckberg. Nous sommes à Pâques en 1974, sur l'île de Vélo, aux abords de Fjällbacka, j'espère que je prononce bien. Et c'est une famille qui disparaît sans laisser de traces. La table du dîner est soigneusement dressée, mais tous se sont volatilisés, à l'exception de la fillette d'un an et demi qui s'appelle Eba. Alors sont-ils victimes d'un crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré? L'énigme ne sera jamais résolue. Et des années plus tard, Eba revient sur l'île et s'installe dans la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets de la propriété ne vont pas tarder à ressurgir. C'est le dernier opus de Camilla Läckberg, qui est encore une fois un roman policier qui se dévore. La construction est toujours la même. On suit en alternance une enquête policière actuelle et une histoire très ancienne. Et les deux qui finissent à un moment donné par se rejoindre. Ici, il est question d'une femme tueuse de bébés, d'une famille mystérieusement disparue et de tentatives de meurtre. Il y avait une critique dans Les Échos le 4 août 2014 qui nous disait « La mort, la folie et l'enfance massacrée hantent ce polar dont l'écriture laisse parfois à désirer, mais qui procure un puissant jet d'adrénaline romanesque. » Le cri du petit chaperon rouge de Beate Teresa Anika. C'est donc un livre allemand qui a été traduit par Isabelle Enderlein. J'ai l'impression que c'est une franco-allemande. On nous dit en quatrième de couverture, au centre de ce récit tendu à se rompre, Malvina, 13 ans. Les vacances de Pâques commencent, sa grand-mère est morte et quelqu'un doit s'occuper du grand-père qui vit désormais seul dans son appartement. Sa mère souffre de migraines chroniques et s'est complètement retirée de la vie de famille. Son frère et sa sœur se désintéressent du problème. Quant à son père, il se contente de donner des ordres. Malvina sera donc le petit chaperon rouge qui, à vélo, chaque jour apporte un repas chaud et une bouteille de vin rouge au grand-père. Un grand-père qu'il l'aime, mais qu'il l'aime un peu trop. Alors comme Lizzie, son amie de toujours, est partie à la montagne, Malvina est seule avec son secret, trop seule pour avoir la force de s'en délivrer. Seule, pas tout à fait, il y a Madame Bicek, la voisine polonaise, et puis un gars du quartier qu'on surnomme Trac. Un petit extrait de ce livre, Le cri du petit chaperon rouge, de Beate Teresa Anika. Anika, ça s'écrit avec un H, H-A-N-I-K-A. Et cet extrait... Peut-être que beaucoup d'autres auraient agi comme moi. Peut-être beaucoup auraient aussi pensé « Ça, je supporte encore, encore un jour et encore un. Demain, je parlerai, ou après-demain, ou peut-être un autre jour. » On ne se rend pas compte que le secret grandit avec soi chaque jour et que chaque heure qui passe le rend plus gros et plus indicible encore. Et soudain, tout change. C'est de Gilles Le Gardinier, comme ça se prononce, L-E-G-A-R-D-I-N-I-E-R, dont un lecteur nous dit que, quand il a lu la quatrième de couverture, qui dit ceci, « Pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d'avoir ses meilleurs amis dans sa classe. Avec sa complice de toujours, Léa, avec Axel, Léo, Marie et leur joyeuse bande, la jeune fille découvre ce qui fait la vie. » Persuadée que j'étais avec ce genre de littérature, dit le lecteur, j'allais me retrouver avec une narratrice à la con. Vous savez, la gamine qui passe son temps à faire « Oh, non, il me parle maintenant plus. Je m'empourpre encore plus de « en. » Vous voyez ce que je veux dire, un style gnangnan ou neuneux. Ah, mes sales préjugés littéraires, dit ce lecteur. Dangereux d'ailleurs, ce livre. Il a failli me faire louper mon arrêt de métro. Le soir, plongé dans ma lecture, il a fallu un coup de coude de mon homme pour me faire lever les yeux. Donc c'est une femme, c'est une lectrice, pardon madame. Je le regarde, l'air de quoi? Il me dit, on arrive. Non, pas possible. Ben si. Il était étonné que je n'avais pas encore refermé mon livre, chose que je fais habituellement une station avant notre descente. C'est addictif. Un livre léger, mais c'est pas péjoratif, léger. Une écriture qui m'a emporté 200 pages, donc ça se lit très vite. C'est frais, drôle, émouvant, on ne s'ennuie pas. Et les zygomatiques ont du mal à se remettre des petites phrases de Camille, la narratrice. Quelques citations. On vit, on meurt, les gens pleurent. Et après, bah, ils se demandent ce qu'ils vont manger. Celle-ci aussi, le plus grand malheur, la pire des solitudes, c'est de n'être utile à personne. Cet extrait de « Et soudain, tout change » de Gilles Legardinier. La littérature pour ceux qui ont tout oublié de Catherine Maury, M-O-R-Y. Ça, j'ai pensé que ça vous intéresserait, vous qui aimez les livres. Eh bien, sachez que du roman de Renard à Madame Bovary, des vers doucement nostalgiques de Du Bellay jusqu'aux poésies mélancoliques de Verlaine, avec aussi des critiques piquantes de Voltaire, qui vont jusqu'aux engagements courageux de Camus et Senghor, de la prose élégante de Saint-Simon à celle de Marguerite Yourcenar, des jeux de mots de François Villon jusqu'à ceux de Georges Perec, la littérature française est riche de pages fabuleuses qui disent à leur façon une vision du monde, de l'histoire et de l'homme. Eh bien, ces vers, ces phrases, ces images, telles une petite Madeleine de Proust, nous reviennent parfois. Voilà ce que nous propose ce livre à vous qui aimez la littérature pour ceux qui ont tout oublié de Catherine Maury, dont on nous dit aussi que ce livre est enrichi d'anecdotes inédites, d'encadrés insolites, de citations mémorables et de dessins humoristiques. Ce livre qui permettra à tous ceux qui ont oublié d'apprendre de se remémorer avec plaisir la vie des grands auteurs du Moyen-Âge jusqu'à nos jours et de relire leurs textes savoureux. Là-dessus, je vous laisse. Je remercie mon camarade Jean-Sébastien Laliberté, mes invités Gérald Cousineau, France Castel et Gisèle Lalande. C'était Clotilde Seille qui vous parlait, qui vous souhaite une bonne semaine, une bonne lecture et qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Martin Michaud. Merci beaucoup et bonne fin de journée.